Je vais parler un petit peu des séquelles à long terme des infections respiratoires de l'enfant. Comme on le sait tous, les infections respiratoires sont très fréquentes dans les premières années de vie. La majorité d'entre elles sont des infections pas sévères, non sévères ou des infections légères, passagères. La majorité d'entre elles sont aussi des infections virales, mais même quand elles sont virales et légères, elles pourraient donner des séquelles à long terme. On connaît bien les séquelles ou les conséquences respiratoires des infections sifflantes de la petite enfance, les bronchiolites sévères qui peuvent récidiver et donner un asthme à l'âge un peu plus tardif, mais on connaît moins les conséquences des infections moins sévères ou légères de l'appareil respiratoire de l'enfant en termes de suivi à long terme. Parmi les infections respiratoires, la pneumonie constitue la plus importante, peut-être pas en nombre, mais en termes d'impact et de gravité. C'est celle qui occasionne le plus grand nombre de mortalités dans les pays, surtout dans les pays en voie de développement, et c'est celle qui peut entraîner donc le plus grand nombre d'hospitalisations chez ces enfants-là. Et ce sont ces pneumonies-là qu'on va essayer de voir en matière de leur devenir à long terme. Une question se pose quand on s'intéresse à l'impact des infections, et surtout des infections virales respiratoires de la petite enfance. Est-ce que ces infections protègent ou est-ce qu'elles constituent un facteur aggravant de la fonction respiratoire à l'âge adulte? On connaît tous la fameuse théorie hygiéniste qui consiste à dire que les enfants soumis à des infections virales en bas âge sont relativement protégés quant au développement de l'atopie et de l'asthme à l'âge un peu plus tardif par le biais des mécanismes immunologiques, mais on sait aussi que certains virus peuvent occasionner des dégâts respiratoires tels qu'ils vont présenter par eux-mêmes des séquelles à long terme. Donc il y a une confusion, et cette confusion vient du fait qu'il y a un amalgame entre les infections respiratoires hautes et basses. Peut-être que les infections protectrices, ce sont plutôt les infections respiratoires hautes et que celles qui sont délétères, ce sont les infections respiratoires basses. Il y a un amalgame aussi qui est peut-être lié au fait que les agents infectieux viraux ne sont pas tous les mêmes et tout le temps. On sait que les séquelles ou les conséquences de l'infection à VRS ne sont pas les mêmes que les conséquences des infections à autres virus respiratoires. Et il y a aussi, comme l'a dit l'orateur qui m'a précédé, des différences de phénotype d'asthme qui tiennent compte non seulement de l'exposition aux agents infectieux, mais aussi du facteur atopique, familial et personnel. Sur cette diapo, on voit les facteurs qui vont occasionner ou déterminer le devenir à long terme de la fonction respiratoire ou des complications respiratoires chez les enfants. Donc, la mucoviscidose, bien sûr, elle va avoir un impact à long terme, les malformations pulmonaires ou les malformations des voies aériennes, les déficiences immunitaires, les aspirations et les inhalations, l'exposition aux fumées, l'asthme, mais aussi l'infection, et c'est ça le propos de notre sujet. Donc tous ces facteurs sont en cause, mais l'infection occupe une place à part, et c'est celle-là qu'on va essayer de suivre. Une premières études qui s'est intéressée au devenir à long terme des infections ou des pneumonies de la petite enfance, c'est une étude qui a suivi donc des enfants depuis la naissance, une étude de cohorte, un peu comme celle qu'on a vue tout à l'heure, qui s'est intéressée à peu près 1 400 enfants suivis depuis la naissance et qui a essayé de répertorier les épisodes de pneumonie et de coqueluche. Et parmi ces 1 400 enfants, 193 avaient présenté une pneumonie et 215 avaient présenté une coqueluche avant l'âge de 7 ans. Ces enfants ou ces patients-là, ces sujets, ont été suivis à long terme et on a mesuré leur volume expiratoire maximal et leur capacité vitale fonctionnelle à l'âge de 34-35 ans, donc une trentaine d'années après l'épisode infectieux aigu. Et les résultats ont montré que quand ces personnes-là avaient présenté une pneumonie en bas âge, ils avaient une diminution du VEMS, une diminution de la capacité vitale fonctionnelle, mais pas de diminution, pas de changement du rapport VEMS sur CV. Donc, pas de réversibilité, disons pas d'impact sur l'obstruction bronchique, mais quand même une diminution du VMS et une diminution de capacité vitale fonctionnelle qui sont plutôt en faveur d'un syndrome restrictif. Et ces anomalies ont persisté après administration de salbutamol. Parmi ces enfants-là qui ont présenté une pneumonie et qui ont été suivis à long terme, ceux qui n'avaient pas d'histoire de sifflement avaient la plus grande perte en VEMS. Par contre, ceux qui avaient des sifflements avaient perdu moins de VEMS par rapport aux autres. Et il n'y avait pas de différence selon que la pneumonie est survenue avant l'âge de 2 ans ou après l'âge de 2 ans, parce qu'il est probable que, ou disons, il y avait une hypothèse qui pouvait dire, ou laisser penser, qu'une infection en bas âge était plus délétère du fait du développement de l'appareil pulmonaire. Mais cette étude-là sera, comme on va le voir, un petit peu contredite dans ce domaine en particulier. Par contre, les enfants qui avaient présenté une coqueluche n'avaient pas autant de déficit de la fonction respiratoire à l'âge adulte que ceux qui avaient présenté une pneumonie. Donc, une première étude de cohorte assez bien menée à long terme qui montre un impact des pneumonies sur le devenir respiratoire à long terme des sujets. La plus grande étude qui a été faite, en fait, c'est une méta-analyse qui a regroupé plusieurs études et s'est intéressée donc aux séquelles des infections respiratoires. Donc, cette étude est partie du fait que certains agents infectieux étaient réputés générateurs de problèmes à long terme, surtout les adénovirus, surtout Mycoplasma pneumoniae. Dans des infections sévères, ces deux agents-là pouvaient occasionner des dilatations des bronches ou une bronchiolite oblitérante avec ses séquelles de dilatation et de collapsus bronchique à long terme. Par contre, ce qui était moins connu, c'est le devenir des enfants qui ont présenté des pneumonies, mais qui n'avaient pas de facteurs de risque importants, c'est-à-dire pas de mucoviscidose, pas de déficit immunitaire, etc. Ceux qui ont été infectés par des agents infectieux non réputés virulents, comme ce qu'on a décrit tout à l'heure, et ceux qui n'ont pas été hospitalisés. Donc ce sont en fait le grand paquet d'enfants qui se présentent pour pneumonie dans les services hospitaliers. Et il était nécessaire de comprendre ce que allaient devenir ces enfants-là pour savoir si la prise en charge de ces enfants-là était correcte, si le suivi était bon, s'il fallait peut-être assurer un autre suivi à ces enfants-là, et pour évaluer l'impact des mesures préventives qu'on pouvait faire pour éviter les infections pulmonaires de la petite enfance. Dans cette méta-analyse, on a regroupé les pneumonies en pneumonies hospitalières, c'est-à-dire les enfants qui ont nécessité un séjour hospitalier pour le traitement de la pneumonie, et en pneumonies non hospitalières, donc ne nécessitant pas d'hôpital. On les a groupés aussi en fonction du fait qu'on ait retrouvé ou pas de germes infectants dans ces pneumonies-là. Donc, c'est des enfants qui avaient des signes cliniques et radiologiques de pneumonie, mais chez qui on a retrouvé du streptocoque pneumonier, hémophilus, staphylocoque, mycoplasme, chlamydia, adénovirus ou VRS, et une autre catégorie d'enfants chez lesquels on n'a pas retrouvé de germes. Et tout cela pour essayer de savoir s'il y avait une différence dans le pronostic de ces différents groupes. Et les séquelles qui ont été retrouvées ont été groupées en séquelles majeures et séquelles mineures. Parmi les séquelles majeures, la plus importante était le syndrome restrictif respiratoire, c'est-à-dire une atteinte de la fonction respiratoire intéressant le volume, la capacité vitale fonctionnelle, mais avec des débits qui étaient conservés. Ces enfants-là pouvaient avoir une dyspnée plus ou moins sévère, mais le plus souvent sans sifflement, donc un syndrome restrictif respiratoire. Deuxième catégorie de séquelles majeures qu'on a pu retrouver, c'était la bronchite chronique obstructive, c'est-à-dire une diminution du VEMS, une diminution du rapport VEMS sur capacité vitale, sans amélioration significative au bronchodilatateur, et cliniquement, des enfants qui présentaient des dyspnées avec sifflement, mais non améliorés avec bronchodilatateur. Donc, une sorte de BPCO, comme le connaissent bien les médecins d'adultes. Troisième catégorie de séquelles majeures, c'était les bronchiectasies, qui pouvaient être localisées ou diffuses et qui sont une dilatation irréversible des bronches qui sont enflammées et quand elles sont dilatées, donc elles sont facilement compressibles et entraînant un obstacle, en fait une obstruction et une diminution de la clairance mucociliaire. Donc ces enfants-là avaient, ou ces patients-là avaient cliniquement une bronchorrhée importante et des infections respiratoires fréquentes avec ou sans sifflement. Et puis la quatrième catégorie de séquelles majeures, ce sont des enfants qui ont présenté plus tard plus d'une de ces anomalies qu'on vient de décrire. Donc séquelles majeures, et certains enfants présentant des pneumonies avaient présenté des séquelles mineures. Les séquelles mineures étaient une bronchite chronique, c'est-à-dire des infections bronchiques qui duraient longtemps avec une production excessive de mucus, mais sans dilatation des bronches, sinon ils étaient classés en infection, en séquelles majeures. Deuxième séquelle qualifiée de mineure, c'est l'asthme, défini par une altération de la fonction pulmonaire avec diminution du VEMS et du rapport VEMS sur CV, amélioré significativement par les bronchodilatateurs, et sur le plan clinique, des épisodes de dyspnée plus ou moins importants améliorés par les bronchodilatateurs. Il y avait aussi des enfants qui avaient des séquelles mineures qualifiées d'autres anomalies pulmonaires, donc des anomalies du VMS et de la fonction pulmonaire non attribuables à l'asthme ni à la bronchite, et des enfants qui avaient des atteintes multiples, c'est-à-dire asthme plus bronchite, etc. Donc cette méta-analyse a repris près de 3000 publications faites sur les pneumonies de l'enfant, de 1970 jusqu'à 2011. Et parmi ces 3000 publications, il n'y a eu que 67 qui ont été retenues. Et parmi ces 67, seules 13 publications avaient été finalement gardées parce qu'elles remplissaient les stricts critères d'inclusion, c'est-à-dire dans lesquels on pouvait répertorier ces différents types de séquelles dont on a parlé et catégoriser les malades en fonction du fait qu'ils étaient pris en hospitalier ou en extra-hospitalier avec germes ou sans germes. 3 de ces publications étaient intéressées des enfants non hospitalisés, donc vous voyez le faible nombre de publications intéressantes sur ce sujet, et 10 publications s'intéressaient aux enfants hospitalisés chez lesquels on avait retrouvé des germes pathogènes pour 7 d'entre elles et 3 dans des études qui n'ont pas retrouvé de germes pathogènes. Donc de ces études-là qui ont été retenues, elles comportaient donc 722 enfants atteints de pneumonie et 77 d'entre eux avaient présenté donc des séquelles majeures. Vous voyez donc un nombre assez important de séquelles majeures chez ces enfants ayant présenté des pneumonies. Près de 60% de ces enfants étaient âgés de moins de 2 ans au moment de l'épisode aigu infectieux et n'avaient pas d'autres facteurs de risque, donc excluant les malformations, la mucoviscidose, l'efficience immunitaire, etc. Et la durée médiane de suivi de ces enfants-là dans ces études était de près de 10 ans. Une seule étude avait un suivi plus faible, mais elle avait été gardée pour la méta-analyse. Il y a eu donc dans ces études-là relativement peu de sorties d'études, peu de malades qui n'ont pas pu être suivis. 6 de ces études étaient prospectives et la plupart d'entre elles venaient d'Europe ou des États-Unis. Peu d'entre elles intéressaient les pays d'Orient et la région du Pacifique. La plupart de ces études intéressaient des enfants donc de pays développés et un seul papier venait de pays à faible donc en voie de développement. Donc cela peut-être met un biais dans ce qu'on va avoir comme résultat, mais pour maintenir la qualité des études, il fallait quand même se réduire à cette unique étude chez les enfants venant de pays du tiers-monde. Les risques d'avoir une séquelle étaient majeurs, étaient de 5% chez les enfants non hospitalisés. Elle était de 3 fois plus chez les enfants hospitalisés. Donc l'hospitalisation est un facteur de risque. Un enfant qui a présenté une pneumonie et qui a dû être hospitalisé a plus de risques de développer des séquelles à long terme. Les infections pour lesquelles était incriminé l'adénovirus étaient associées à un plus grand nombre ou un plus grand pourcentage de séquelles. Plus de 50% des infections à adénovirus entraîner des séquelles à long terme. Les enfants chez qui on n'a pas retrouvé de pathogène avaient aussi un risque accru d'avoir des séquelles à long terme. Donc ce n'est pas parce qu'on ne retrouve pas de germes que la pneumonie est moins grave et que ces séquelles ne sont pas importantes. Et le risque de développer au moins une séquelle mineure était moindre chez les enfants non hospitalisés que chez les enfants hospitalisés. Donc là aussi, pour les séquelles mineures, l'hospitalisation était un facteur important. Parmi les séquelles majeures, celle qui revient le plus, celle qui est la plus fréquente, c'est le syndrome restrictif. Les bronchiectasies n'étaient pas très fréquentes, ça intéressait 0,9% des enfants, et la BPCO un petit peu plus, mais moins que le syndrome restrictif. Et puis certains enfants avaient des séquelles multiples, donc restrictifs et bronchiectasie, ou bronchite chronique et asthme, mais ils avaient un nombre plus faible. Et tous ces facteurs-là étaient plus souvent vus chez les enfants hospitalisés par rapport aux enfants non hospitalisés. Donc finalement, le risque est plus important quand les enfants sont hospitalisés. Il est un peu plus élevé même chez les enfants chez qui on n'a pas retrouvé de germes par rapport à la population générale. Et plus de la moitié des enfants ayant eu un adénovirus ont des séquelles respiratoires à long terme. Alors, les enfants qui ont été hospitalisés pour pneumonie ont dû avoir, donc, dans l'étude de leur épisode aigu, un traitement par oxygène. C'est pour cela qu'ils avaient été hospitalisés, un traitement antibiotique intraveineux. Ils avaient donc eu une durée de maladie plus longue. Ils avaient une plus grande atteinte parenchymateuse et une plus grande atteinte bronchiolaire et avaient plus tendance à développer des infections nosocomiales que les enfants qui avaient des pneumonies moins sévères, qui n'avaient pas été hospitalisés. Pour ce qui est de l'âge, l'âge inférieur à 2 ans entraînait un risque de séquelles un peu plus important que les enfants âgés de plus de 2 ans. Et d'autres études montrent que cet âge devait être inférieur à 1 an pour que ce soit plus significatif. Cela est probablement dû au fait qu'une atteinte respiratoire à un âge précoce va handicaper le développement et la croissance pulmonaire et alvéolaire de ces enfants-là et donc occasionner plus de dégâts à long terme. Le syndrome restrictif était plus fréquent, on l'a dit. Ceci indique que les germes, les pathogènes que les enfants vont contracter, certains d'entre eux vont atteindre ou altérer l'interstitium et le parenchyme pulmonaire, entraîner une restriction, une mauvaise compliance de l'appareil respiratoire et donc une expansion plus faible et une fonction respiratoire plus altérée. Il y a aussi une atteinte bronchiolaire, d'où les quelques cas de bronchiectasie qui ont été vus chez ces enfants-là. Donc des dilatations des bronches, une mauvaise clairance mucociliaire et une tendance aux infections respiratoires suppuratives. Alors, il y avait aussi, donc le syndrome restrictif était plus fréquent. Le syndrome obstructif avait été rencontré de manière plus importante, surtout chez les enfants qui étaient nés avec un petit poids de naissance. Ça ressemble un peu à ce qui a été vu dans l'asthme. Les enfants, surtout garçons nés avec un petit poids de naissance, avaient une atteinte obstructive plus importante que les autres. Ceci va aussi est valable chez les enfants atteints de pneumonie. Les enfants qui ont une plus faible fonction respiratoire à la naissance sont plus souvent sujets à développer des pneumonies. Et cette notion-là va être revue plus tard, un peu plus en détail dans une étude que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc là, ce n'est pas le bas âge qui va entraîner la pneumonie, ce n'est pas la pneumonie qui va entraîner la difficulté de la fonction respiratoire, c'est plutôt la fonction respiratoire initialement faible des enfants qui va les mettre à risque de pneumonie. Il y a d'autres facteurs qui vont rentrer en compte aussi dans le devenir de ces enfants atteints d'infection, c'est des facteurs d'environnement et l'exposition aux fumées de tabac. En conclusion, tous les enfants ayant présenté une pneumonie, quelle que soit leur sévérité, doivent être suivis à moyen terme et à long terme. Même si ces pneumonies ont semblé être guéries, il faut qu'ils assurent un suivi, au moins une consultation et une évaluation pour voir le risque de séquelles tardives malgré la guérison clinique et radiologique de la pneumonie. Tous les enfants de moins de 5 ans donc, doivent être suivis quand ils ont présenté une pneumonie et l'impact peut être assez important. Une étude qui est parue récemment s'est intéressé au devenir donc, d'une cohorte. C'est la fameuse cohorte des malades de Arizona qui a été suivie aussi pour asthme, qui s'est intéressée à plus de 1200 enfants et qui a, à travers des questionnaires et des visites régulières de ces enfants-là, évalué leur devenir à 11 ans, 13 ans, 16 ans, 18 ans, 22 ans, etc. Et on a recueilli des informations, entre autres le tabagisme. Ces enfants-là avaient été vus par un médecin s'ils avaient eu une infection respiratoire en dessous de l'âge de 3 ans et la pneumonie a été documentée par examen radiologique. Donc, trois groupes de patients suivis. Ceux qui avaient présenté des pneumonies étaient au nombre de 44, Ceux qui avaient présenté des infections respiratoires basses étaient au nombre de presque 300 et ceux qui n'ont pas présenté du tout d'infection étaient pratiquement au nombre de 300. Donc trois groupes de patients suivis depuis la naissance pendant une vingtaine d'années. À l'âge de 6 ans, tous ces enfants-là ont eu une exploration allergologique par des tests cutanés sur les pollens, les moisissures et les acariens. Et ils ont tous eu une étude de la fonction respiratoire à différents stades de leur vie, 11 ans, 16 ans, 22 ans, 26 ans, une étude de la capacité vitale du VEMS et du débit expiratoire 25-75. Quel était le devenir de ces enfants-là qui ont été suivis? On a remarqué que ceux qui avaient présenté une pneumonie avaient une plus grande altération de leur fonction respiratoire, une baisse du VEMS, une baisse du rapport VEMS sur CV et une baisse du débit expiratoire 25-75. Donc, les enfants atteints de pneumonie avaient ceci et ils avaient aussi une baisse de ces fonctions respiratoires après test au bronchodilatateur. Donc, une bronchoconstriction, un syndrome obstructif fixé dans le temps. La catégorie des enfants qui ont présenté des infections respiratoires mais qui n'étaient pas des pneumonies, avaient aussi, eux, dans leur suivi, on a constaté chez eux une baisse de la fonction respiratoire, du VEMS, du rapport VEMS sur CV et des débits expiratoires distaux, et une diminution aussi de la fonction respiratoire après bronchodilatateur, mais cette diminution était moindre que chez les enfants atteints de pneumonie. Donc, pneumonie entraîne un syndrome obstructif peu réversible. Infection respiratoire basse non pneumonique, c'est-à-dire bronchite, bronchiolite, etc., l'entraîne aussi, mais à un degré moindre. Donc, le devenir de ces enfants-là qui ont présenté des pneumonies a été évalué pour ce qui est de l'asthme. Donc, ces enfants-là ont été vus dans leur suivi et évalués à ce niveau-là. Le risque de développer un asthme était deux fois supérieur chez les enfants ayant présenté une pneumonie en bas âge. Ce risque était un peu moins élevé chez les enfants ayant présenté d'autres infections que les pneumonies. Et quand on s'intéresse donc à l'asthme diagnostiqué par le médecin, c'était deux fois plus, mais aux enfants qui avaient présenté aussi des sifflements, mais non diagnostiqués asthme, il y avait aussi là une augmentation de l'incidence de ces épisodes de sifflement après l'infection respiratoire et surtout après pneumonie. Alors, quels sont les mécanismes qui ont été incriminés? C'est une atteinte directe des voies respiratoires par le virus en cause ou par la bactérie en cause. Les premières années de vie sont capitales pour le développement pulmonaire et c'est à cette période-là que les agents infectieux peuvent occasionner le plus de dégâts et entraver le plus la croissance bronchiolaire alvéolaire des malades. Donc, le syndrome obstructif dans ces études-là était net, il était variable en fonction des enfants, et les virus en cause pouvaient être variables, notamment l'adénovirus et le virus influenza A. Maintenant, il y a différentes atteintes ou degrés d'atteinte de la fonction respiratoire. Elles sont variables parce que peut-être que les mécanismes de défense ne sont pas tout à fait les mêmes chez tous les enfants qui ont présenté une infection respiratoire. Donc, la pneumonie peut être un marqueur d'atteinte des voies respiratoires initiales très tôt dans la vie. Certaines études ont évalué la fonction respiratoire de nourrissons avant toute infection et avant toute atteinte respiratoire. Et les enfants qui avaient une fonction respiratoire plus faible avaient plus de risques de développer des pneumonies secondairement. Donc là, on voit que la relation est à double sens. Pneumonie, séquelle respiratoire. Fonction respiratoire basse, plus de risque de pneumonie. Donc, vous voyez un peu la confusion d'où elle vient. Donc, les déficits de la fonction respiratoire préexistants associés aux lésions occasionnées par des infections respiratoires vont contribuer tous les deux à aggraver le pronostic à long terme de ces enfants-là. Donc, l'asthme est une entité à envisager chez les enfants ayant présenté une pneumonie et on connaît les conséquences à long terme. Le docteur Tofah l'a présenté tout à l'heure. Et la prévention des pneumonies doit être prise au sérieux pour diminuer les séquelles à long terme sur la fonction respiratoire, pour améliorer l'état de santé de ces enfants-là et diminuer cet impact sur le devenir de ces malades. Je vous remercie.